Dans nos communautés, une émission de Christiane Hervault sur Radio Alliance Plus.
Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices de Radio Alliance Plus. Bienvenue pour notre émission. Aujourd'hui, je suis à Millau, chez des amis, pasteurs, au pluriel, le monsieur et la dame, tous les deux pasteurs depuis fort longtemps, et nous allons parler de leur parcours de vie, leur parcours de ministère dans les différents lieux. Ils sont venus en témoigner à la fraternité à Nîmes, rue Antoine Delon, que certains d'entre vous connaissent, et cela m'a donné envie de poursuivre la conversation. Voilà. Alors, Georges et Marie-Claude Fauché, bonjour.
Bonjour.
Merci de m'accueillir chez vous. Et puis, nous allons parler de vous, donc, et de votre vie. Tout d'abord, eh ben, première grande question, si on peut dire, comment avez-vous décidé d'être pasteur ?
Alors, en tous les cas, pour moi, c'était curieusement pas très difficile, parce que j'ai fait partie d'un groupe de jeunes à Romans, dans la Drôme. Et tout le groupe de jeunes, ils sont tous devenus pasteurs. Et moi, j'étais le plus jeune. Je suis devenu pasteur. Donc, on croirait que c'est un peu par conformisme. Mais en fait, c'est avec un très grand plaisir naturel, à 17 ans, que j'ai eu envie de... En fait, je me disais, j'aime parler de la foi, j'aime parler de la Bible. Et si en plus, on me paye pour...
c'est parfait.
Si en plus, on me paye, voilà. Donc ça s'est fait très naturellement, mais c'est vrai que c'est un groupe de jeunes où j'avais beaucoup d'exemples devant moi.
Ouais, ça sert, les exemples, les bons exemples. Et Marie-Claude ?
Alors pour moi, ça a été pas tout de suite. Hein. Je venais d'un milieu où j'étais catholique de naissance, hein, mais je n'avais pas la foi. Du coup, il y a une conversion. Et puis j'ai rencontré Georges et... Voulant devenir pasteur et moi n'ayant pas beaucoup d'instructions chrétiennes, du coup, on a commencé les études de théologie ensemble. Pour moi, je faisais ça comme un catéchisme. Je pensais que pour un couple pastoral, c'était important de pouvoir discuter ensemble et que je connaisse un petit peu. Voilà. Et c'est bien plus tard que j'ai poursuivi mes études. Je me suis arrêtée à la licence, on a eu les enfants. Et quand j'étais à Nîmes, j'ai eu l'occasion d'animer un groupe biblique de femmes. Et ça m'a donné envie, puisqu'on n'était pas loin de la faculté de Montpellier, de retourner à la fac. Du coup, avec quelques années de plus, de maturité chrétienne aussi. Et c'est là qu'on a commencé à me dire, mais Marie-Claude, on me l'avait déjà dit avant, hein, est-ce que tu ne voudrais pas être pasteur ? Ça serait bien. Et puis, il n'y avait pas eu besoin de beaucoup forcer. Il y a eu cet appel intérieur, c'est sûr. Voilà. Et l'appel extérieur, et du coup, il y avait confirmation. Et c'est comme ça que j'ai été aumônier hospitalier.
Voilà, dans une petite partie déjà qui donne envie d'en savoir plus. Alors, on va continuer, puisque vous avez parlé de Nîmes, donc les personnes qui nous écoutent peuvent se douter que vous avez été à Nîmes, puis certaines personnes le savent peut-être qui vont nous écouter. Donc, ma deuxième question, c'est tout naturellement, moi, dans quel lieu vous avez... exercer votre ministère.
La première paroisse, c'était dans les Vosges, le premier ministère. C'est vrai qu'on s'était dit, on ira là où Dieu voudra, ou là où l'Église aura besoin de nous. Et on s'est retrouvés dans une paroisse à Rhin-l'Étape. Voilà, un peu loin de tout, dans un village, où Georges était à mi-temps paroisse et à mi-temps animateur jeunesse. Voilà. Du coup, ça, on a fait nos premiers pas... En tant que toi, comme pasteur et en tant que couple pastoral là-bas, voilà, donc dans les Vosges.
Dans les Vosges. Donc, et vous êtes originaire au départ de quel lieu ?
Alors moi, c'est un peu compliqué, je dirais autour de Paris. Voilà, oui. Je suis née à Paris, j'ai fait la Normandie et j'ai eu des tuteurs nommés à Romans et c'est comme ça que j'ai rencontré Georges.
Et moi dans la Drôme, Romain.
Voilà. un beau coin aussi. Donc c'était assez différent. Là. Dans les Vosges, pas si loin que ça, mais quand même...
On a une mini-anecdote rigolote, c'est que le premier culte que j'allais présider en tant que pasteur. À côté du presbytère, il y a le temple de Raon-l'Étape, un grand beau temple, on avait quand même la clé. Le premier culte, le premier dimanche, on est arrivés tous les deux avec nos enfants, je crois, et il n'y avait personne. Personne. Donc on s'est dit, oh là là, comme ça commence mal. En fait, c'est pas ça, c'est que le culte était dans un autre village, mais que personne nous avait prévenu.
Oh, voilà. Bah alors.
Alors c'était notre premier culte, on l'a fait dans un temple
village. Vous avez rattrapé le coup après.
On a rattrapé.
C'était juste clin d'œil amusant.
Voilà. Vous êtes resté combien de temps dans les Vosges ?
Six années. Voilà, Marie-Claude avait toujours dit, tu peux inviter qui tu veux, quand tu veux, etc. Tu ne demandes pas, je te demande qu'une seule chose, c'est qu'on ait un congélateur. Donc on a eu un congélateur.
C'est une pratique. Voilà.
Mais en fait, il n'y avait quand même pas beaucoup de passages. Et quand on est arrivé plus tard à Nîmes, au bout de 6 ans, on a plus connu une paroisse où il y a du passage, du mouvement, des gens qui frappent au presbytère. Il n'y en avait pas beaucoup à Raon-l'Étape, mais c'est une époque qui est importante pour nous, hein, c'était nos débuts.
En tout cas, elle nous a marqué dans la question du temps. On s'est aperçu qu'au bout de la 5e année, des gens nouveaux arrivaient et qu'il fallait du temps pour que les gens puissent faire communauté ensemble, qu'on puisse faire. Et du coup, c'est peut-être pour ça que par la suite, on a fait des ministères beaucoup plus longs. On est resté plus longtemps, voilà, pour avoir le temps de bien connaître, de faire le tour des paroisses. Ça a été aussi les Vosges, ça a été marquant, parce que Georges, l'église, lui avait demandé de faire une formation BAFA, B-A-F-D, donc directeur de camp. Et c'est ce que tu as fait. Et du coup, comme tu étais animateur jeunesse, du coup, tu as commencé les camps à cette occasion-là. C'est là que tu as commencé la guitare aussi.
Ouais, ça devait bouger pas mal, hein.
Ouais, oui.
Animateur jeunesse, il faut y aller, hein. Là, mais c'est bien, c'est passionnant.
Comme on était tout feu tout flamme, la première année, on faisait tout ensemble avec Marie-Claude. La première année, on a animé 3 camps d'été. L'école primaire, l'école biblique, les collégiens, un troisième les lycéens. Mais le président de région nous a dit, là, vous en faites un peu trop, vous n'allez pas tenir. 2 camps par été, c'est maximum.
J'avais sans doute raison.
J'étais sage.
Alors, je pense qu'après, vous êtes venu à Nîmes. C'est bien ça ?
Oui.
On faisait partie d'un groupe d'amis et l'un d'entre eux nous a dit, ils sont en train de faire des appels ou de chercher un pasteur à Nîmes. Et c'était, donc, ça a été notre deuxième poste. On n'avait pas trop réalisé, donc je devais avoir 32 ans à ce moment-là, je n'avais pas trop réalisé qu'un jeune pasteur qui avait 30 ans à Nîmes, c'était quelque chose. Et puis l'animation jeunesse, là aussi, ça nous a beaucoup... Ça a été très fort aussi.
C'était ta dominante.
Et c'était ma dominante, rapidement. Et on a été doublement contents de cette nouvelle étape, parce que nos enfants commençaient à être grands. Et donc, eux aussi, ils rencontraient pas mal d'autres enfants et des groupes de jeunes et des choses comme ça. Voilà. Et puis, Nîmes nous parle beaucoup aussi parce que, après la Seconde Guerre, si je ne me trompe pas, les paroisses ont décidé de former un seul conseil presbytéral qui décide, et ensuite des conseils paroisses dans chaque lieu, bien sûr. Mais donc, du coup, c'est quand même un lieu... comme souvent dans les grandes villes, enfin comme parfois dans les grandes villes, où on est obligé, entre guillemets, mais c'est une bonne chose, de collaborer, de s'entendre, d'accueillir les pasteurs et de gérer les choses ensemble. Donc ça donne l'impression d'une machine un peu lourde, mais une machine un peu lourde pour qu'il y ait de la concertation et du lien. Et voilà, ça je trouvais, c'était très bien.
Donc cette paroisse, il faut la nommer parce qu'il y a,
mais oui.
il y a trois.
Ah oui, c'est
mais
oui. De temps plus. Hein.
Mais c'est un peu là. J'ai été appelé par le conseil presbytéral, le conseil d'ensemble, mais pour exercer effectivement à la paroisse de la Fraternité qui est sur le côté est de Nîmes. Et on a beaucoup accroché. Peut-être qu'on s'est même trop accroché, on est resté 14 ans.
Donc il y a eu des bons contacts.
Ah, très très bons. On a été heureux que nos enfants connaissent cette vie communautaire, parce que c'est vrai que dans les Vosges, tout était un peu petit, c'était très disséminé. Et là, les enfants ont pu connaître l'église, les groupes de jeunes, et certains de nos enfants ont gardé contact encore, à l'heure d'aujourd'hui, avec les anciens du groupe de jeunes. Du coup, une belle dynamique.
Donc, c'est pour ça que vous êtes revenu dans le coin.
Ah oui, ça a marqué.
Et voilà, vous êtes maintenant à la retraite, donc à Millau. Alors, on va poursuivre un peu notre cheminement, puisqu'après, ça a été une autre aventure. Où est-ce que ça vous a mené, cette autre aventure? Après Nîmes,
on avait été appelés sur Lyon.
Oui.
Et puis Lyon, après Lyon, au moment où vous commencez à prendre contact, on vous a dit « Ah, mais il y aurait besoin de quelqu'un comme Georges, qui avait le profil de Georges, sur la paroisse d'Aubervilliers à Paris. » Du coup, on a commencé à faire les démarches pour aller à Aubervilliers.
Et toi, comme aumônier dans un des hôpitaux là-bas.
Et moi, j'étais aumônier sur demi-temps. Voilà. Mais en fait, c'est là que je suis... La maladie... a pris le pas de plus, voilà, donc avec une sclérose en plaques, et donc du coup, qui a mis un peu fin à une halte, en tout cas, a fait une halte sur ces projets-là, et qui nous a redirigés sur la paroisse de Envonage, donc à Vergès. C'est comme ça qu'on est arrivé à Vergès.
D'accord. Donc vous êtes resté combien de temps à Vergès ?
10 ans.
Ah oui, quand même.
10 ans à Vergès.
Ah, j'ai cru que c'était... plus rapide, vous êtes allé à Marseille, on va parler de Marseille, parce que c'est particulier, c'est une ville où vous êtes resté aussi assez longtemps, puis c'était quelque chose d'important. Donc à Vergès, 10 ans à Vergès.
Et du coup, en habitant à Millau, pas le Millau de l'Aveyron évidemment, mais en habitant à Millau, près de Nîmes actuellement, nous sommes entre la paroisse de la Fraternité et Nîmes, où on a été pendant 14 ans, et entre la paroisse Garrigues, Vistringue, Vergès, et surtout donc l'ensemble des terres du milieu, comme on dit, avec Lunel, les quatre villages en dessous et tout ça. Et donc on est entre deux paroisses qui comptent beaucoup pour nous, et donc de temps en temps on va au culte à l'un, de temps en temps on va au culte à l'autre, et on a des amis dans les deux, et c'est super pour nous.
C'est très bien, oui. Et vous êtes... Donc il y avait aussi plusieurs paroisses, c'est un peu comme c'est actuellement aussi.
Alors,
un ensemble qu'on appelle un ensemble.
Ah oui, l'ensemble des terres du milieu, il y a 10 temples cet ensemble. Alors les choses se reconfigurent un petit peu différemment maintenant, je pense, avec les décisions synodales, mais en tous les cas il y avait 10 temples et donc 10 villages, enfin Lunel c'est même plus qu'un village, c'est une ville, et donc voilà. Et donc du coup c'est un peu la chose particulière, c'est que on combine des lieux différents, et il y a tout ce défi finalement de faire communauté avec des lieux différents, mais voilà, c'est un défi que cet ensemble relève.
Oui, c'est vrai, c'est pas rien dans ce... et pour beaucoup d'endroits dans le Gard c'est un peu pareil
. Oui, bien sûr,
voilà, il faut oublier personne. Voilà. Alors, pour n'oublier personne, on va peut-être faire une petite pause de musique pour se détendre, voilà. Et vous m'avez proposé une chanson d'un collectif de Pierre Fond, et le chant s'intitule « Si tu as la foi comme un grain de moutarde ».
Tout à fait.
C'est ça ?
Tout à fait.
Alors, nous allons l'écouter, et puis nous revenons ensemble juste après pour continuer notre passionnant parcours avec vous, Georges et Marie-Claude Fauché.
De la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. projet de toi dans la mer. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Tu as de la foi comme un petit grain de moutarde. Ainsi parle le Seigneur. Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi, je le dis par la foi. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi, je le dis par la foi. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Tu as de la foi comme un petit grain de moutarde. Ainsi parle le Seigneur. Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur.
Vous êtes sur Radio Alliance Plus, vous écoutez le 103.2. Vous savez que vous pouvez nous écouter aussi en DAB+, ou bien écouter nos podcasts sur radioallianceplus.fr. Nous continuons notre parcours ecclésial, notre parcours de ministère de pasteur avec Georges et Marie-Claude Fauché qui me font le plaisir de m'accueillir aujourd'hui chez eux, à Millau, où ils sont à la retraite maintenant. Et alors, il y a eu un changement, encore comme beaucoup de pasteurs, donc pour une autre ville qui est la grande ville de Marseille. Et donc, c'était dans une cité, dans un lieu un peu peut-être particulier pour vous par rapport à ce que vous aviez connu, Vergès et Marseille, là. Donc, est-ce que vous voulez me dire un peu le nom d'ailleurs de cette paroisse et puis le lieu exact et puis les caractéristiques un peu de cette paroisse à Marseille ?
La présidente de région à l'époque, Sophie Zen-Samendro, on lui avait signalé qu'au bout de 10 ans à Vergès, on était disponible s'il y avait un autre projet. Et elle nous a dit assez rapidement, on vous verrait bien dans un lieu qui s'appelle Terre Nouvelle, dont le nom officiel c'est la paroisse de Vitrolles, Marseille Nord. Voilà. Et donc, on est allé prendre contact avec cette paroisse. Alors évidemment, comme c'est à Marseille-Nord et qu'il y a beaucoup de clichés ou de caractéristiques que tout le monde a plus ou moins en tête, alors les gens nous ont un peu taquinés, ils ont dit « prenez les gilets pare-balles » ou des choses comme ça. Mais en fait, dès nos premiers contacts, on a beaucoup, beaucoup accroché avec ce lieu, avec cette paroisse, et avec un côté social très prégnant, mais spirituel aussi et communautaire, avec des points communs assez particuliers avec la paroisse de la Fraternité qu'on avait connue à Nîmes, donc une petite paroisse, mais avec un ancrage communautaire, familial, et aussi un ancrage social, et de service social, voilà, avec une dimension particulière à Marseille-Nord, mais ça nous a beaucoup parlé et ça nous a beaucoup marqué. On a été très heureux nos 9 années à Marseille.
Alors, est-ce qu'on peut dire un petit peu ce que vous y avez vécu d'une manière un peu plus précise ? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez expérimentées ou mis en place d'une manière particulière à Marseille, peut-être certainement différente de ce que vous aviez fait à Vergès ou Nîmes ? Et puis,
ouais, ça me permet de rebondir, de dire chaque lieu qu'on a fait avait une... Chaque paroisse était très différente, hein. Elle est constituée d'une communauté d'hommes et de femmes, d'enfants, et dans des lieux spécifiques, avec des besoins différents. Mais la parole est toujours la même. Hein. Donc, demande à être adaptée, demande à être annoncée. Toujours la même parole qui est annoncée, mais peut-être différemment ou sous d'autres formes. Voilà. Donc, du coup, c'est vrai que chaque lieu a été l'occasion. Et ça, c'était d'expérimenter de nouvelles façons de parler de l'évangile, hein, de parler de ce qui nous fait tenir debout. Et Marseille, notamment, avec ce... C'était deux associations, une association Loi 1901, qui est un centre social, voilà, et la paroisse, hein, Loi 1905. Mais toutes les deux, à l'origine, c'était une seule même paroisse. Hein, c'était un élan de quelques paroissiens qui se sont installés dans les quartiers nord pour suivre la population qui bougeait. Et avec ce volet social très présent. Si tu aimes ton Dieu, tu ne peux pas ne pas aimer ton frère et vice-versa, je veux dire. Hein, c'était vraiment la main tendue et c'était un lieu d'expression que j'ai beaucoup aimé. Une façon de vivre en église que j'ai beaucoup aimé. Le volet social, bien sûr, il y avait les Restos du Cœur, hein, du coup, avec 400 repas distribués, les aides au papier, l'aide aux Français. Voilà. Mais il y avait aussi du yoga, il y avait aussi d'autres choses. L'animation avec les enfants, puis les jardins, voilà, il y a beaucoup de choses. Et puis, bien sûr, la paroisse, hein, une petite paroisse, mais on a eu beaucoup de chance de voir des gens, nous, vers la fin. Du coup, je pense, pour la fin d'un ministère pastoral, de dire, on a eu plusieurs demandes de confirmation de baptême ou de baptême, et ça, c'était cadeau. C'était vraiment, on avait un beau cadeau de fin de ministère, voilà.
Donc il y avait une population, quel type de population? C'était mélangé
Alors relativement mélangé. À la base, c'est un mouvement militant, spirituel et social, c'est-à-dire que c'est une paroisse qui est quand même portée par des personnes qui sont convaincues que, puisqu'on a un lieu qui nous a été confié par la mairie de Marseille, bon, il y a 35 ans, hein, pour un bail de 60 ans au total, puisqu'on a ça, donc il y a des personnes qui ne sont pas forcément des quartiers nord, comme on dit, mais qui sont d'un peu plus loin, qui disent « il faut y être, il faut exercer une présence ». Et puis donc évidemment on a des personnes qui sont des quartiers elles-mêmes et donc c'est une paroisse, mais comme toutes nos paroisses, hein, je crois plus ou moins, avec un, je sais pas comment on dit, un assemblage ou une mixité sociale importante, et ça fait partie du défi. Mais ce qui est vrai, ce qui est particulier, c'est que pour une paroisse constituée de personnes militantes et qui estiment qu'il faut se battre à tout prix pour que, voilà, continuer à rayonner, particulièrement dans des quartiers difficiles, c'est vrai que du coup, on était au pied de trois cités difficiles. Une qui est Calisté, qui s'appelle Calisté, qui était vraiment très très connue pour être un des lieux les plus... voilà, un des lieux vraiment terribles. Mais du coup... Ben, on était plongé là-dedans, on rencontrait quand même, par le biais des Restos du Cœur, par le biais des cours de français, pas mal de personnes. Et du coup, c'est des occasions de contact inattendues. On a un exemple, on a fait chaque année un week-end familial, mais ça comme dans beaucoup d'autres paroisses ou beaucoup d'autres ensembles. Mais la particularité, c'est que vu les personnes qu'on rencontrait dans le cadre de la paroisse et du travail social, vu les personnes qu'on rencontrait, on a lancé facilement des invitations. On va faire un week-end famille, c'est un week-end protestant, mais si toi tu es musulman ou si toi tu es musulmane, c'est pas grave pour nous. Non seulement c'est pas grave, mais peut-être ça sera très bien pour nous et on proposera ce qu'on sait faire. Mais tout le monde est bienvenu, mais ça sera un week-end organisé par des chrétiens quand même et des chrétiennes. Et du coup, sans le faire exprès, sans réaliser tout de suite la portée de ce que ça signifiait, on a vécu quelque chose d'interreligieux assez naturellement. Et ça nous a beaucoup marqué, c'est quelque chose... Alors, si à Marseille-Nord, on ne fait pas d'interreligieux, je ne sais pas où c'est qu'on en fera, mais dans tous les lieux, je sais qu'à Nîmes, il s'en fait pas mal aussi, et c'est très déterminant. Là, c'était de l'interreligieux enfin, je dis c'était parce que quand on y était, nous, mais c'est encore... C'est de l'interreligieux de contact humain, fraternel, naturel, et de vivre des choses ensemble et apprendre à se respecter. On a fait des fois des conférences, on a fait des fois des études interreligieuses, mais voilà, apparemment, c'était pas ça qui était le plus porteur. Le porteur, c'était de vivre des choses ensemble, mais apprendre à mettre des mots dessus quand même, voilà. Et la base de la base, c'est que qui nous rassemblait quand même pour l'interreligieux, c'est cette conviction partagée aussi bien par l'islam que par la foi chrétienne et bien sûr par le judaïsme. Cette conviction, c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mmh. Voilà, et donc s'il n'y a qu'un seul Dieu, quelles que soient nos prières et quel que soit du lieu où on vient, et quelles que soient, voilà, nos prières, elles vont de toute façon au même endroit. D'une certaine façon, on prie le même Dieu, d'une autre façon, on ne prie pas le même Dieu. Bon, parce que tout ça, c'est des débats théologiques. Mais en tous les cas, apprendre à vivre côte à côte, y compris notre foi, côte à côte et des fois ensemble, je pense que ça avait un rôle spirituel, mais social aussi à Marseille. Alors, il fallait le faire, il faut le faire. Comme dans d'autres lieux, le plus partout où on peut, il y a un vrai, vrai, vrai enjeu formidable. Il y a tellement la religion est tellement récupérée souvent pour être facteur de division ou de guerre que c'est très important que les chrétiens, les chrétiennes se réunissent et les musulmans, musulmanes et ainsi de suite. Et dans le judaïsme aussi, hein, bien sûr, pour dire non, la religion, quand elle est vécue avec sincérité et honnêteté, elle ne nous pousse pas à la guerre, elle pousse au respect des êtres humains.
Tout à fait. Merci beaucoup pour ce témoignage. Et nous allons bientôt terminer notre émission. Est-ce qu'il y aurait un mot ou une phrase au sujet de ce ministère ou les ministères que vous avez fait à droite et à gauche, là, dont nous venons de parler, qui terminerait, qui conclurait si on peut conclure.
C'est difficile, mais un mot, moi, c'était reconnaissance. C'est vrai que dans mon ministère d'aumônier, j'ai beaucoup aimé toutes ces belles rencontres que j'ai faites. Mais oui, reconnaissance, ce qu'on disait pour la diversité des lieux, les diversités des personnes qu'on a rencontrées, cette richesse. Et puis cette façon de vivre l'évangile de différentes façons, là où on était, avec les forces qu'on a. Et je trouve que c'est beau. C'est là qu'on se dit que Dieu est avec nous.
Merci Seigneur, en tous les cas.
Vous voulez dire encore un mot, Georges ?
Non, parce que je suis tout à fait d'accord avec Marie-Claude. On est reconnaissant de ce qu'on a vécu beaucoup, 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 et de ce qu'on vit à la retraite, même si c'est différent. Chaque étape, on a l'impression de la vivre intensément, et c'est une grâce de Dieu.
Oui, c'est ce que... Dieu, c'est ce que vous portez en vous, hein, ça se voit sur vos visages aussi, l'amour de Dieu, l'envie de communiquer ce que vous vivez, et puis la façon dont vous l'avez vécu, on a ressenti beaucoup de, en tout cas moi j'ai ressenti beaucoup de liens avec les personnes, de liens et d'amour, du plaisir de la rencontre. Voilà, donc moi en tout cas j'étais très heureuse aussi de vous rencontrer, ceux de la fraternité de dimanche dernier, ou dimanche il y a 15 jours aussi, ça a été un très bon moment et je vous remercie et puis nous serons très heureux de vous voir encore dans les différentes paroisses de Nîmes ou d'ailleurs.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Merci. Au revoir.